grande émotion à voir ce film. Et en même temps, c'est très bien qu'on l'ait projeté là avant de parler du livre, parce qu'il y a dans la manière de procéder aussi, dans cette mise en place des photos successivement, d'informations qui ont l'air, qui sont très précises, apparemment très objectives. Il y a toute une manière de restituer le réel, ou l'idée qu'on s'en fait, enfin du réel, d'une partie du réel qu'on peut sauver. Et on retrouve dans l'écriture, bon, on va y venir, on ne peut plus dormir tranquille quand on a...
Une fois ouvert les yeux.
Quand on a une... Voilà. Une fois ouvert les yeux, on retrouve à peu près ça. À la fois cette très grande précision et en même temps cette force de ce langage complètement dit objectif et qui semblerait être une des seules voies peut-être d'appréhender la mémoire, d'appréhender la vérité, le souvenir.
Oui, je ne sais pas si c'est une des seules voies, mais... oui, c'est vrai qu'on peut rapprocher ce film de ce que j'écris, puisque ce film, je l'ai tourné au moment où j'écrivais Quoi de neuf sur la guerre, qui est mon premier roman, et entre la première et la seconde partie, qui sont d'une écriture différente, parce qu'il se passe 30 ans entre la première et la seconde partie. Il s'est passé un an entre ces deux écritures, et c'est pendant cette année-là que j'ai réalisé ce film. Alors, la manière d'aborder ce qu'on appelle le réel, ou ce qu'il en reste, est absolument semblable. Et je crois que je continue un peu dans ce même domaine, même s'il y a d'autres thèmes qui viennent s'inscrire. C'est pas seulement un film sur la mémoire, c'est aussi ça. Mais je me dis pas, on va faire ce film pour se souvenir. Si j'ai montré la séquence au cimetière de Bagneux, dans ce lieu où il y a des tombes, où personne n'a jamais été dessous, c'est aussi parce que je crois qu'il est important de nommer les lieux, de nommer les noms des choses, les noms des êtres, et que de les nommer, c'est une manière de ne pas les oublier. Il y a une phrase que je mets enfin en quatrième de couverture, qui est une phrase du philosophe Vladimir Jankélévitch, qui a dit « Si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie éphémère est un fait éternel. » Alors je crois que cette rue Villain, qui n'existe plus, puisque c'est un jardin, vous l'avez vu, qui a pris sa place, à partir du moment où ce lieu a vécu, la preuve c'est qu'on a photographié cette rue, elle a été filmée, elle a existé, et on ne pourra jamais dire que ça n'a pas été.
Peut-être, si tu permets, je vais peut-être revenir sur une présentation, parce qu'on a démarré comme ça, mais j'imagine que la plupart de ceux qui sont venus ici connaissent Robert Baubert, mais Robert Baubert a une triple activité, enfin il en a bien plus même. Il est écrivain, il est réalisateur, documentariste, il a réalisé plus de 130 films, il a été également tailleur, potier, animateur de colonies de vacances et tant d'autres choses, parce que effectivement sa vie a été bousculée comme celle de tant d'autres par le nazisme, par la Shoah, par le fait que précisément en juillet 42, quelques jours après la rafle du Veldiv, son père, alors que la famille avait pu se réfugier à Gentilly, s'est fait prendre, peut-être dénoncé, et donc n'est jamais revenu. Donc il fait partie de cette génération de gens dont l'existence a été terriblement troublée, c'est un euphémisme. Il est né à Berlin, ce que je ne savais pas, en 1931, d'une...
Je vais t'arrêter juste une seconde.
Oui, je t'en prie.
C'est important ce que tu dis parce que tout le monde, c'est ce que tous les gens qui
voilà,
c'est que à la fois tu parles de moi et du narrateur qui n'est pas moi.
C'est vrai. Voilà. Oui, parce qu'on a tendance à tout mélanger.
Oui, il y a un narrateur qui est, dont je. Dont
non, mais là, je donnais ta biographie quand même.
Oui, non, mais mon père n'a pas été arrêté.
Ah oui.
C'est celui du narrateur.
Celui du narrateur.
Voilà. Mais je veux dire.
Extraordinaire.
Mais peu importe,
pas
peu importe dans le, pour le réel, mais,
non.
Mais il est vrai que à partir du moment où j'écris, et bien que ce soit un roman, il y a plein de choses personnelles, le lecteur confond, mais c'est pas grave, le narrateur et moi qui... suis nommé, d'ailleurs, plus loin.
Bah oui, tout à fait.
Puisqu'il y a un Robert, tout de même, dans le livre, un personnage secondaire qui est là comme passeur d'une histoire. Voilà. Mais il est vrai que à cause de la guerre, je n'ai pas fait d'études secondaires, j'ai quitté l'école après mon certificat d'études, j'ai été tailleur, donc de 14 ans et demi à 23 ans, bon tailleur, d'ailleurs.
Oui,
j'étais reçu premier d'école de coupe, ce qui n'est pas rien. Et puis ensuite j'ai fait d'autres métiers et voilà, bon, maintenant le fait d'avoir rempli une vie fait que j'en ai eu plusieurs, mais je n'en renie aucune, bien au contraire, puisque tout ce que j'ai fait avant est venu nourrir ce que j'ai fait ensuite.
Oui, il semblerait même que au fur et à mesure que tu amenais les chapitres de Quoi Neuf sur la guerre à ton éditeur, Paul Ostachkovitch
Laurence,
voilà, tu lui amenais à chaque fois en miniature une petite pièce de ce qui serait un vêtement à la fin.
Je lui amenais chapitre par chapitre et à chaque fois je découpais. Un dessus de manche, un dessous de manche, un devant, un dos, un col, une poche, qui accompagnait à chaque fois. Et quand tout le vêtement, quand tout le livre, vous voyez, quand tout le livre a été terminé, je lui ai amené l'ensemble sur un tissu encadré. Et voilà, donc c'est un objet, c'est à la fois un vêtement ou les éléments d'un vêtement qu'il faut assembler comme un puzzle une fois de plus.
Et de manière parfaite, parce que sinon, pas que les coutures. Alors, si on revient rapidement à la biographie, donc en effet, toi, tu es né à Berlin.
Oui.
Deux parents juifs polonais et qui se sont installés en France.
En 33.
Voilà, en 33, fuyant effectivement l'Allemagne. Mmh. Et qui étaient artisans et qui ont vécu
À Belleville d'abord,
à Belleville,
à la Butoya ensuite, et puis je n'ai pas quitté l'Est parisien, j'ai toujours été attiré par ce Paris populaire, vivant, c'est un lieu, sur des quartiers ou des arrondissements que je connais bien, dans lesquels je continue à me balader, alors que bien évidemment, les lieux ne sont plus ce qu'ils étaient, mais comme je crois avoir le don de voir en transparence... peut-être parce que je me souviens, le plaisir de me promener est aussi grand.
Voilà, alors donc, après ces aventures professionnelles, si je puis dire, par hasard, et d'ailleurs je voulais te demander quelle place tu accordes au hasard, rencontre, il y a une rencontre avec Truffaut, ça c'est le...
C'est
à la fois autobiographique et c'est en même temps dans le roman, quoi, c'est le...
C'est
le narrateur et c'est en même temps Robert Baubert, et donc tu as amené donc à faire du cinéma, à travailler énormément, beaucoup pour la télévision et notamment avec Pierre Dumayet pour Lecture pour tous, qui est un magazine.
Oui, après Lecture pour tous, j'ai fait un film sur Lecture pour tous, mais j'ai commencé à travailler avec lui après, mais j'ai fait 60 films avec lui.
Avec lui, oui.
Surtout autour de la littérature, de la peinture.
C'était une émission, pour ceux qui l'ont connu, tout à fait exceptionnelle, enfin vraiment. Et donc, tu t'es mise à l'écriture assez tardivement.
Oui.
Alors, il y a plusieurs questions que je voudrais te poser, mais là, ce que je voudrais dire pour ce livre, le quatrième, donc on ne peut plus dormir tranquille quand on a les yeux ouverts, c'est à la fois un récit, un roman, où il y a des éléments évidemment autobiographiques, mais où le narrateur, qui s'appelle Bernard Applebaum, est un jeune homme, qui va découvrir l'essentiel de son histoire à propos du tournage de Jules et Jim et de la projection notamment de Jules et Jim. Donc il y a une référence entre le cinéma, entre l'histoire, c'est tout d'un coup la révélation de sa biographie qui va se faire à travers ça et du destin très particulier que sa mère a vécu et lui aussi. Et comment, si je puis dire, comment expliquer à la fois ce désir de bon, séparer en deux personnages, si je puis dire, principaux, puisqu'il y a, il rencontre Robert Bobert, le narrateur rencontre Robert Bobert, qui est vraiment lui-même, qui est cinéaste, qui est en train de préparer, de faire des repérages pour Jules et Jim, et qui était son ancien moniteur de colo, hein, ça c'est très important. Et donc, il lui propose, en se retrouvant après quelques années, il lui propose de jouer, de faire de la figuration. Alors là, j'en viens au hasard, c'est qu'entre-temps, Robert Bobert avait rencontré quelqu'un d'autre, une jeune fille, Laura, qui était en colonie de vacances.
Non, pas Robert Bobert.
Robert.
Ah oui, oui. Enfin,
bon, alors.
On va pas s'en sortir.
On va pas s'en sortir. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Fait, alors, reprenons.
Oui, c'est que. Voilà. C'est que bon, moi, j'ai.
Par, oui, dans, Robert, en tant que romancier, oui, tu as fait
Le personnage. Oui. Le personnage de Robert. Voilà. A fait également faire de la figuration à une fille qui s'appelle
était,
Laura.
Voilà. Voilà.
Qu'on a déjà aperçu dans Birkebeck, dans mon second roman.
Et dont Bernard était amoureux.
Voilà. Voilà. Et puis, il se trouve que Truffaut leur demande, puisqu'ils sont assis à la même table, de s'embrasser au moment où la caméra va passer devant eux. Ce qui était un cadeau formidable que Truffaut, sans le savoir, a fait à Bernard. Et voilà, malheureusement. La scène va être coupée au montage, comme ça arrive très souvent.
Ça, c'est terrible.
On tourne beaucoup plus, et c'est un drame pour lui, puisqu'il n'y a même pas la trace de ce moment très important. Et par contre, il va au cinéma avec sa mère, et c'est là, à partir de là, que tout se déclenche.
Voilà. Alors, c'est à la fois un livre sur qui était un roman d'amour, si je puis dire, entre guillemets,
à différents niveaux. C'est carrément un roman d'amour, à différents niveaux.
À la fois cette histoire de Bernard et de Laura, mais aussi cette histoire de la mère de Bernard, dont on verra que justement en sortant de Jules et Jim, elle se dit c'est ma vie, quoi. C'est j'ai vécu cela avec les deux hommes qui ont été mes maris successivement. C'est en même temps un roman sur la mémoire. C'est en même temps un roman populaire, à la gloire, d'une certaine manière, du peuple et du peuple de Paris. Il y a un amour de Paris, enfin, qu'on voit parce que, à travers ces différentes rencontres, ces différents personnages, il y a l'histoire qui a une présence très forte à travers des chansons. De bruants, des moments de la commune qui sont évoqués justement dans ce Paris populaire qui garde des traces réelles ou mythiques. Là, c'est l'écrivain qui les introduit en partie.
Réelles, puisqu'il y a toujours le mur des fédérés au cimetière du Père-Lachaise.
Il y a des tombes.
Il y a la tombe de Jean-Baptiste Clément qui a écrit Le temps des cerises, etc. Enfin, voilà,
il y a des éléments réels.
Il y a un tas de rencontres avec des personnages réels, des rencontres avec des événements souvent difficiles, comme la fameuse manifestation contre l'OAS en 1962.
Charonne, la fameuse.
Voilà, il y a 8 morts, dont une personne que je connaissais, qui a été monitrice en colonie de vacances. Voilà, donc ce sont des éléments biographiques qui, pour moi, sont importants et qui viennent s'introduire comme ça, j'espère, naturellement dans le récit.
Qui traverse le livre, oui. Et à travers ce travail de la mémoire, je pense qu'en même temps, il y a une façon de toucher... de manière presque universelle, parce que c'est en même temps un pan d'histoire qui est donné, justement, de cette histoire populaire, populaire au sens noble, enfin, du terme.
Oui, oui, oui.
J'ai le sentiment, voilà. Et d'une partie de population juive immigrée, presque oui, essentiellement
oui. Yiddish. Oui, en partie, parce que dans ce bistrot chez Victor, on a tourné Gilles et Jim, bistrot qui a également disparu maintenant, qui était un lieu magique, parce que c'était au fond d'une impasse où il y avait une grille. Il n'y a que les gens du quartier qui connaissaient. On poussait la grille, il y avait une sorte de terrain avec un jeu de boules, avec des poules qui caquetaient au loin, puis une maison avec trois salles qui était un bistrot. Et c'est là où on a tourné, et c'est là où se réunissaient des travailleurs italiens, des maçons, qui jouaient à la pétanque également quand ils n'avaient pas de travail. Et c'est là également où le personnage va retrouver régulièrement des gens dont il fait la connaissance. Il fait la connaissance vraiment du peuple de Paris. Il dit qu'il apprend même à jouer aux cartes, à la belote, à quatre, etc. Voilà, c'est comment un enfant d'immigré s'intègre dans une population sans rien quitter de sa première culture, mais en intégrant une autre culture, une autre vie, une autre histoire, et ces deux histoires, celle de ses parents et l'histoire immédiate, ces histoires s'additionnent et fait que ce personnage, jusqu'au bout, très certainement aura cette double culture, parce que je crois que les cultures, on les a en soi, il ne faut jamais les abandonner, et si on les mélange, elles s'annulent. Je crois que voilà, c'est d'où l'intérêt des langues, l'intérêt d'apprendre une autre langue plutôt que de se mélanger à une autre langue.
Donc ne pas les mélanger d'une certaine manière, mais les additionner.
Oui, voilà.
Comme
j'ai fait beaucoup de reportages dans le monde, je trouve rien de plus triste que d'aller au bout du monde et de voir des gens habillés exactement comme je les vois habillés à Paris, d'entendre les mêmes musiques, etc. Je veux dire, où est l'intérêt de voyager si c'est pour voir un double de soi. Ce qui est bien, c'est de voir un autre, et si on veut le connaître, il faut apprendre sa langue. C'est un travail à faire et qui est récompensé par le fait qu'on entre en relation avec l'universel. Et si c'est pour voir des gens qu'on pourrait rencontrer sur son palier, c'est pas la peine. Enfin, je crois que c'est une leçon de la tour de Babel, enfin c'est Iri de Luca qui est un très grand écrivain qui a développé cette idée.
Alors peut-être que tu peux en quelques mots, en quelques phrases, nous dire dans le fond le projet du livre.
Oui, alors
et dans le fond le titre aussi, parce que
oui, alors le
choix
titre
de ce titre.
Le titre de ce livre qui est très beau, je le dis parce qu'il est pas de moi. Il est de Pierre Roverdi, qui est un poète sur lequel j'ai fait un film. Voilà, c'est tiré d'un de ses poèmes, dans un recueil qui s'appelle La plupart du temps. Et puis, alors ce personnage, quand il va voir le film Julie Jim avec sa mère, il voit pour la première fois sa mère qui est bouleversée par ce film. Et en revenant à pied du cinéma, il traverse pratiquement ce qu'on appelle encore les grands boulevards, entre le cinéma, le Vendôme, qui est avenue de l'Opéra, et là où ils habitent, c'est-à-dire dans le 11e. Elle lui raconte pour la première fois la vie d'avant la naissance de Bernard, qu'elle a été amoureuse successivement de deux hommes qui sont morts l'un après l'autre, qu'elle a été aimée par ces deux hommes qui étaient amis. Et elle est donc, elle est bouleversée parce que Julie Jim est l'écho de sa propre vie.
Oui.
Et pour la première fois, donc Bernard apprend cette histoire et il se rend compte que la femme qui lui donne le bras en marchant n'était pas seulement sa maman, mais d'abord une femme qui a aimé, qui a été aimée. Et il ne sait pas encore que ce père qu'il n'a pas connu, puisqu'il avait 2 ans quand le père était déporté, le second mari, qui est le père de son petit frère Alex, meurt dans un accident d'avion en 49, au moment où le petit frère n'a que 2 ans, et ce qui lui fait dire: je ne me souvenais pas de mon père, mais je me souvenais du père de mon frère Alex, qui lui ne s'en souvenait pas. Et voilà, les deux vont avancer comme ça dans la vie. Il y a cette recherche du père, mais il ne le sait pas. Il y a quelque chose en lui qui recherche quelque chose ou quelqu'un, sans le savoir. C'est après qu'il le comprend. Et il rencontre des gens extrêmement différents, dans des milieux extrêmement différents, qui n'ont rien à voir en apparence les uns avec les autres. Et c'est à la fin, comme dans un puzzle, quand on met la dernière pièce, on comprend enfin tout ce qui se passe, et lui aussi comprend pourquoi il y a eu cette sorte de curiosité envers les êtres, envers les événements, envers les choses.
Et cette nécessité de reconstituer précisément cette histoire, comme si tout d'un coup il avait à ce moment-là, il prenait place dans la vie, ayant pu retracer sa biographie, enfin retracer autant que possible.
Justement. Oui, mais je crois que c'est sa forte curiosité qui l'amène.
Et les hasards aussi. Alors je reviens sur le hasard parce
que
je
crois pas au hasard.
Non, tu ne crois pas, mais quand même, il y a le fait que, par exemple, tu parlais donc de la femme de la mère de Bernard qui s'appelle Anna, qui était donc elle-même amoureuse de deux jeunes gens en Pologne, Jankele qui sera Jacques et puis Lazar. Et en fait, ils sont allés danser un soir. Lazar n'a pas pu venir pour une question en même temps tragique et ridicule et dérisoire, parce qu'il y a beaucoup d'humour en même temps. Et là, Yankel et Jacques et Anna ont dansé toute la soirée du tango, parce que voilà, et forcément ils ont flirté et leur amour d'une certaine manière s'est épanoui, et leur engagement. Et Bernard pose d'ailleurs bien plus tard la question à sa mère en lui disant: mais est-ce que dans le fond tu aurais pu aussi épouser Lazar si c'était l'inverse?
Oui, mais...
Alors là, il n'y a pas de hasard.
C'est ce que j'appellerais moi plutôt une coïncidence, de même que dans Jules et Jim, qui est aussi une histoire vraie, puisque c'est une histoire d'Henri Pierre Rocher de Franz Hessel, l'un allemand qui a vécu à Paris et l'autre français qui était critique d'art. Jim, pour reprendre le nom du roman ou du film, Jim a rendez-vous avec Catherine. Elle est très en retard, il croit qu'il ne viendra pas, elle s'en va. Elle vient une heure après parce qu'elle a pris le temps d'aller chez le coiffeur, etc., parce que pour elle c'était un rendez-vous important. Et puis il se dit, elle aussi, qu'il n'est pas venu. Et à ce moment-là, elle décide de partir en Allemagne avec Jules. La guerre de 14 éclate. Et il se passe quelques années sans qu'ils se voient. Bon. Mais ils se revoient après. Et quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences, voilà. Et tout à l'heure, dans la salle, j'ai vu une femme que j'ai connue enfant, qui habitait le même quartier que moi, dans le 13e arrondissement. Une autre qui est encore là, dont j'étais le moniteur quand il est de vacances. Hein. Voilà. Et ce n'est pas par hasard. Il ne me viendrait pas l'idée de lui demander par quel hasard tu es venu. Et voilà, la coïncidence fait que je suis invité à venir ici, et l'apprenant, elle est venue. Voilà, mais les choses se passent comme ça. Et il y a toujours des signes.
Et donc, dans la vie peut tenir précisément, le destin peut tenir
par quel hasard ce qui a été détruit de la rue Villain et de Passage de la Croix à la forme du E hébraïque. Voilà. Je n'ai pas de réponse, mais c'est comme ça, donc moi je livre les choses et je ne cherche pas à les expliquer.
D'accord.
Mais les questions, donc, c'est souvent mieux que les réponses.
Oui, ça c'est une démarche complètement juive, de poser des questions et de chercher...
Disons Talmudique.
Talmudique, absolument. Ouais. Donc il y a quelques-unes de ces coïncidences comme ça dans le livre qui font que voilà que Truffaut demande à Laura et Bernard de se de s'embrasser au moment où la caméra passe et voilà, ou il y a d'autres passages de laser. Bon, alors en même temps il y a une façon, comment dirais-je, d'écrire et de faire passer ce qui est très très frappant, de faire passer pratiquement tout l'indicible, tout ce qu'on a du mal à exprimer est quand même traduit par l'écriture. Et ça, je trouve que c'est un travail remarquable et je me demande si tu veux pas lire un petit passage pour qu'on s'en rende compte ou si tu veux... Je trouve que c'est absolument extraordinaire de cette façon de procéder de manière tout à fait... objective, systématique, d'en dire à la fois beaucoup par précision et de manière précise, et en même temps d'être totalement dans.
T'as pensé à un passage particulier ?
Bah, c'est comme tu veux, mais par exemple.
Oui, comme il y a plein de.
Il y a plein de post-it. Non, mais il y a plein de passages, par exemple. Quand ils se séparent, je trouve que quand ils se séparent. Ils vont se retrouver, quand Bernard et Laura vont se retrouver dans ce fameux bistrot chez Victor et que il comprend, enfin Bernard comprend que Laura n'a pas d'amour pour lui, va le, en tout cas n'est pas amoureuse de lui, eh bien elle lui offre un livre qu'il n'ouvre pas et au moment où elle part, il va se rendre compte qu'il va ouvrir ce livre de photos qui s'appelle The Family of Man, et il tourne les pages, enfin c'est ça qui serait intéressant de dire, par exemple. Et cet album de photos va le conduire à découvrir des choses sur Laura qui sont essentielles et dont ils n'ont pas parlé. C'est-à-dire que c'est à travers une photo, à travers un livre, à travers un échange, où beaucoup de choses restent non dites, on perçoit, entre guillemets, une vérité, un moment essentiel. Voilà. Alors, par exemple, si tu veux dire ce passage, mais c'est comme tu veux.
Qui est
vas-y. Tu dis ce que tu veux, mais... là, à partir de là, quand tu reprends la famille. Par exemple, Laura partie, si tu veux. Non
oui, si. Oui, alors, il faut peut-être que je remonte un peu plus haut. Voilà, donc après le tournage, il retrouve Laura et il sait, lui, dans ce bistrot. Alors, évidemment, qu'il n'a plus le décor parce que pour le film, on avait installé des affiches, on avait mis un vieux gramophone, etc. Enfin, bon, donc c'était redevenu un bistrot des années 60 et non plus un bistrot d'avant la guerre de 14. Et lui, bien évidemment, il s'est assis exactement à la place où elle lui avait accordé, à la demande de Truffaut, 3 baisers. Et c'est à la fin de leur rencontre, voilà. Nous sentions bien que le temps était venu de se séparer, que Laura devait en prendre l'initiative et le faire avec précaution, sachant qu'en raison de mon désarroi, j'aurais été incapable de le faire sans brusquerie. Laisse-moi partir la première, a-t-elle dit alors. Et après m'avoir donné le même baiser qu'en arrivant, elle se dirigea vers la porte du bistrot restée ouverte. Elle eut un instant d'hésitation, et comme si son corps l'avait précédée, elle s'arrêta au moment d'aborder les 3 marches, comprenant peut-être qu'envahie par le chagrin, je ne cherchais même plus à sauver quelque chose. Laura revint sur ses pas et posa ses lèvres sur les miennes. Puis, après m'avoir fait signe de ne pas bouger, sachant que je la regarderais partir, elle est sortie sans se retourner. Ce dernier baiser donné eut pour effet de nous les éloigner l'un de l'autre, et je m'étonnais à peine de cette contradiction. Laura partit, il restait sur la table du bistrot l'album de photographie qu'elle m'avait offert en arrivant et que je n'avais pas osé ouvrir, et je revoyais ses mains posant le livre devant moi. C'était le catalogue The Family of Man, qui reprenait les photographies de la grande exposition organisée par Edward Station au Museum of Modern Art de New York. Cet album, machinalement, je le feuilletais. Les photos venues de 68 pays étaient reproduites par thème, comme le mariage, la naissance, la mère et l'enfant, les jeux, le travail, la solitude, la famille. Et c'est ce dernier thème, la famille, qui retint mon attention. Il y avait une famille italienne, une d'Afrique du Sud, une troisième du Japon et une autre qui m'arrêta plus encore. Elle représentait une famille américaine de 11 personnes, réunies autour d'une aïeule, assise sur un petit fauteuil à bascule. Peut-être à la demande du photographe, à moins que ce ne soit le désir de la famille, ces 11 personnes prennent la pose, adossées à un mur sur lequel sont accrochés 4 portraits d'ancêtres, soigneusement encadrés, 2 hommes et 2 femmes, et je compris alors pourquoi je m'étais arrêté sur cette photo. Si elle a été prise là, précisément à cet endroit, c'est pour avoir une image dans laquelle ils seront tous ensemble, les vivants et ceux qui avaient vécu avant eux.
Voilà.
Je saute un passage.
C'est important, précisément.
En feuilletant cet album de photographies, venait de ressurgir le souvenir de l'adolescente de la colonie de vacances. Je savais que quelque chose en elle avait été cassé puis recollé, mais seulement recollé. J'avais appris que Laura, lorsqu'elle n'était encore qu'une petite fille, en maison d'enfant, avait dessiné des rides sur le visage de sa poupée et mis du rouge sur ses lèvres. Elle avait fait de sa poupée une adulte. On l'avait vue une fois essayer de se mettre dans les bras de sa poupée pour voir comment ça fait d'être dans les bras d'une mère. L'album The Family of Man et l'évocation de l'incendie de l'impasse Compan portait la trace des rides de la poupée. Voilà.
Enfin, c'est un, mais un oui, des, c'est un une des façons de procéder qui me paraît très caractéristique chez toi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est les choses s'inscrivent d'une manière qui a l'air inattendue. On est sur la séparation douloureuse entre Laura et Bernard. Et puis à partir de ce livre de photos, sur le livre qui n'est pas non plus n'importe lequel, bien sûr, on tombe sur ces photos, cette famille américaine, où on voit là les parents et les enfants. Enfin, et tout est dit là par rapport au drame de cette génération d'enfants comme Perec et d'autres qui ont eu cette rupture absolument terrible. Et je crois que tout ça est très fort en même temps que très simplement évoqué.
C'est-à-dire qu'on comprend que Laura, ses parents ont été déportés par ce moment.
Bien sûr.
Et je crois que plus les choses que l'on veut raconter sont douloureuses, plus il faut y aller sur la pointe des pieds, il faut procéder par filtre, on n'entend jamais Laura dire « mes parents ont été déportés ». C'est Bernard qui le dit à travers un livre. Voilà, j'essaye de faire le plus possible, c'est de procéder par un système de filtre. Voilà, une histoire de... Je ne veux pas... l'histoire douloureuse, je ne veux jamais les raconter directement, mais toujours qu'il y ait un intermédiaire, parce que l'intermédiaire met ce filtre qui je pense, empêche le pathos de surgir, ce que vraiment je ne souhaite pas.
Oui, enfin, je trouve justement que c'est très fort et que le livre en tire une densité, en même temps qu'il y a des passages très drôles par ailleurs, mais il y a une densité dans cette écriture qui me paraît très frappante. Et dans le travail aussi de la mémoire, et là sans doute tu vas y revenir, c'est extraordinaire cette façon de laisser aller les choses, de donner vie à des associations, de les développer. Tout d'un coup, on tombe sur tout à fait autre chose, mais ça paraît absolument naturel. Et grâce à cela, l'auteur bifurque, ou le narrateur bifurque, et raconte d'autres événements plus longtemps dans l'histoire ou plus anciens. Et puis après, on retombe sur le présent du narrateur. Et par ce biais, on a petit à petit une restitution de la mémoire, entre guillemets, dans le sens entre le plus naturel possible. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous réfléchissons à quelque chose, on regarde une photo, un truc... Les souvenirs s'additionnent et nous conduisent vers d'autres...
Parce que je crois que la mémoire n'est pas chronologique.
Non.
À chaque fois, il y a beaucoup de retours en arrière là, mais ce n'est, enfin, je pense que c'est jamais gratuit. C'est parce qu'il rencontre quelqu'un ou il entend une phrase ou il voit quelque chose, ça le renvoie à un souvenir qu'il pensait avoir oublié, qui ressurgit, et à ce moment-là, il s'aperçoit que si ce souvenir ressurgit, c'est qu'il n'était pas anodin, c'est qu'il racontait quelque chose qu'il ne comprenait pas, peut-être parce qu'il était trop jeune, trop petit, ou inattentif. Mais c'est là, c'est en nous. Enfin, je crois qu'on a en nous toute une série d'événements, de visages, et qui ressurgissent au fur et à mesure. L'expérience, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, de lire un livre 20 ans après l'avoir lu une première fois, et de s'apercevoir qu'on y voit des choses qu'on n'y voyait pas, non pas parce que on les lisait mal, mais à 20 ans on perçoit des choses sont plus importantes que d'autres, à 40 ans ce sont d'autres choses qui interviennent, et voilà, c'est quand un livre est bon qu'il déclenche comme ça des moments de lecture différents. Voilà, c'est très bien. Et je crois que dans la vie aussi, il y a des événements qui reviennent.
Oui. Pardon. Mais dans la littérature, c'est assez rare qu'on restitue cela. On a tendance à chronologiser les choses, et c'est, je trouve, la richesse de ce livre, c'est justement d'essayer d'être au plus près, si je puis dire, de ce mouvement de la mémoire et de ces pièces du puzzle qui, tout d'un coup, vont s'organiser précisément pour restituer à Bernard les éléments de son histoire, sa biographie dont il a besoin essentiellement pour vivre, et de son petit frère Alex, parce qu'une fois qu'il aura entre guillemets retrouvé des éléments de sa vie, il va aider son frère finalement à trouver cela.
Oui, son frère qui est un personnage qui lui a le désavantage de n'avoir jamais connu d'homme vivant à la maison.
Voilà, alors il y a d'autres, si tu permets, il y a une coïncidence encore, c'est que alors on va peut-être parler du père de Bernard. Ce père de Bernard, Bernard apprend que son père donc a été arrêté tout simplement parce qu'ils étaient partis à Gentilly. La famille avait été plus réfugiée, mais ils avaient laissé beaucoup de choses. Et le père s'est senti, dans l'obligation de retourner. De retourner pour aller chercher quelques papiers, quelques éléments qui leur étaient utiles. Mais il n'est pas retourné simplement une fois. Il est allé plusieurs fois. Et il passait par le toit du cirque Bouglione.
Sur les Bouglione, qui sont patrons du cirque d'hiver, voilà. Ils habitent. Là, il faut que je donne quelques explications, puisque on n'est pas à Paris, on est à Montpellier. Ils habitent au 7 de la rue Oberkampf, qui est une rue qui donne dans la rue Amelot, où se trouve le cirque d'hiver. Et le au 7. C'est une impasse qui s'appelle la Cité Crussol. Et le toit du dernier bâtiment de cette cité est contigu au toit du cirque d'hiver. Voilà. Et donc le père, pour éviter d'être reconnu par des voisins qui auraient pu le dénoncer, passe par l'entrée des artistes du cirque d'hiver. Et alors, donc, j'ai imaginé que. Alors, j'ai fait ce parcours, je suis monté sur le toit du cirque d'hiver avec l'aimable autorisation, comme on dit, des Bouglione. Et j'ai appris, encore une fois, il n'y a pas de hasard, j'ai appris que beaucoup de garçons de piste pendant la guerre étaient soit des résistants, soit des juifs, ou les deux à la fois. Et que le fait d'être garçon de piste les aidait, et s'il y avait une rafle quelconque, ils étaient là et ils balayaient, etc. Et ils n'étaient pas arrêtés. Et donc, ce que j'ai imaginé en allant sur place faire l'enquête, un des Bouglione m'a raconté ça. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de hasard.
Voilà. Et ce qu'il y a d'important dans cette.
Alors, il se fait arrêter, bien sûr, mais on ne sait pas comment.
Oui. Mais alors, dans cette démarche de Bernard, il se dit effectivement, je vais y aller. Il hésite et finalement, donc il va voir les responsables de Bouglione. À l'époque, c'était cirque d'hiver, en effet, et on le conduit finalement dans une inconnue où il trouve un escalier en colimaçon, une rampe de fer. Et ils arrivent devant une petite porte qui permettait de monter sur le toit. Donc on va chercher la clé, il va pouvoir y entrer, et c'est à 23 mètres de hauteur, et il se dit, il faut que je le fasse, il faut que je fasse cela. C'est là qu'il me fallait aller, marcher jusqu'à la troisième lucarne, l'ouvrir, et comme mon père l'aurait fait, sauter sur le palier. Quelque chose, j'en étais persuadée, allait m'être restitué. Et c'est justement ce sentiment très fort de redonner vie à quelque chose. C'est ça qui caractérise tout le livre. Et donc, il poursuit, le narrateur, Bernard, sur ce chemin qui, de l'escalier en colimaçon, me conduisait à la troisième lucarne, il me plaisait de croire que celui qui avait été mon père me prenait par la main, m'aidant à faire mes premiers pas, comme s'il m'avait attendu et me disait « Regarde, c'est par là, très exactement par là que je suis passé. » Aussi, comme si lui aussi avait eu besoin de, comme si lui aussi avait eu besoin de ce moment, et que pour la première fois, il me lâchait la main, j'ai marché vers la troisième lucarne, et je l'imaginais derrière moi, souriant sans doute, attentif et confiant, et tout me parut facile. Longeant les souches de cheminée, mes pas se sont confondus avec les siens, et cet acte que je venais de comprendre, n'avait rien à voir avec la curiosité, allait, une fois pour toutes, m'engager. Et il me semble que là, comme à d'autres moments, c'est pour ça qu'il y a plein de post-it, mais je m'y retrouve, tu vois, c'est vraiment le caractère fondamental, tout d'un coup, de redonner vie à un souvenir, ou à ce qu'on a su, comme ça, distraitement, et tout d'un coup, par l'existence, par le fait de passer dans les pas de son père, bah, tout d'un coup, et puis le père, qui c'est plus que symbolique, donc il a le sentiment que son père l'accompagne, et puis tout d'un coup, lui lâche la main. Il a l'impression, justement, que là, bon, il devient un homme, ou en tout cas un petit... Voilà. Et
oui,
ça,
il est comme un petit enfant, on prend la main pour pas qu'il tombe, et on le lâche au moment où on sent qu'il...
Et là, il est dans la vie. Et là, il peut prendre ses marques. Enfin, on a le sentiment que ce travail sur la mémoire, sur le souvenir, lui permet de s'inscrire dans le réel. Et de s'inscrire avec bonheur, à ce moment-là, pour la vie. Et pas simple. C'est pas morbide, justement. Il n'y a pas de recherche morbide. Et à différents moments, on trouve ça, justement. Et ça, ça me paraît très important.
Peut-être qu'il y a des...
Oui, peut-être qu'il peut y avoir des questions, des gens avoir que les gens qui, ne partent, parce qu'on pourrait discuter. Oui, madame, je vous en attendez. Oui, bah écoutez, prenez celui-ci déjà.
Attendez, je crois qu'il y a un micro qui va arriver.
Va se promener.
Voilà.